Chapitre 6. Accepter la perte. Mario m'a appelé la semaine dernière pour me demander si je pouvais accueillir son ex-femme Rita, la mère de David, qui est de plus en plus amère et qui ne se remet pas de différentes pertes qu'elle a subies. Il voudrait bien pouvoir l'aider, mais elle est encore en réaction contre lui et contre tous ceux qui sont heureux, me dit-il. Je l'accueille aujourd'hui pour la première fois. Bonjour, Madame Bourbeau. Je viens vous voir sur le conseil de Mario, mais je vous préviens que je ne suis pas du tout convaincue que vous puissiez m'aider. Ma vie est une suite de malheurs, et je me demande bien ce que j'ai pu faire à Dieu pour qu'il me traite ainsi. Je parle très rarement à Mario, car je finis toujours par me mettre à pleurer ou à me mettre en colère. Il me raccroche alors au nez. Il ne semble pas comprendre ce que je vis, et il essaye sans cesse de me convaincre d'une chose ou d'une autre. Cependant, je l'ai rencontré la semaine dernière au café où je m'étais arrêtée à midi pour manger un sandwich et il était seul au comptoir en train de finir son repas. Je me suis assise à côté de lui et j'ai été très surprise par son attitude. Il me semblait plus doux que d'ordinaire et il ne m'interrompait pas tout le temps quand je parlais. Il a fini par me dire qu'il ne se sentait pas capable de m'aider à résoudre mes problèmes, mais qu'il connaissait quelqu'un qui pourrait sûrement le faire. Je ne sais pas ce qui s'est passé au juste, mais il avait l'air tellement bien et enthousiaste quand il parlait d'une démarche qu'il était en train de faire que j'ai décidé de tenir compte de sa suggestion. Me voilà donc. Je lui explique brièvement ce que je fais et lui mentionne que je ne peux aider que les personnes qui veulent véritablement s'aider elles-mêmes, qui sont vraiment décidées à améliorer leur qualité de vie. Quand je lui demande si elle est capable de prendre cette décision aujourd'hui, elle me répond sèchement. Que croyez-vous que je sois en train de faire ici? N'est-ce pas une preuve que je veux que ma vie change? Non, lui répondis-je. Nombre de personnes font de la thérapie personnelle dans le seul but d'avoir une oreille attentive à leur disposition, sans vouloir nécessairement se prendre en main elles-mêmes. Elles attendent sans cesse que leur entourage change, espérant être plus heureuses ainsi. Pour ma part, je sais que cela est impossible. L'entourage ne peut changer d'attitude à notre égard que si nous commençons à changer quelque chose en nous. Et avant que notre attitude intérieure puisse changer, il est impératif que nous soyons conscients de l'attitude non bénéfique que nous entretenons. Mon rôle est donc d'aider mes clients à ouvrir leur conscience, mais avant tout, j'ai besoin de sentir que le client le désire vraiment. Que dois-je faire pour vous prouver que je veux que ma vie change? J'ai un petit test pour toi. D'abord, j'aimerais préciser que j'ai l'habitude de tutoyer mes clients, si cela te convient. Sinon, je te vouvoierai. Toi aussi, tu peux me tutoyer. Avant que nous entamions une démarche ensemble, je vais te donner le premier livre que j'ai écrit en te demandant de le lire, et ce, dans la semaine qui suit. J'ai vu sur ta fiche que ma secrétaire a complété que tu n'as jamais participé à une conférence ou à un atelier chez nous et que tu n'as lu aucun de mes livres. Cette lecture est très importante pour toi, car ce n'est qu'après avoir terminé le livre que tu sauras si tu te sens bien avec l'approche que j'utilise et à l'idée d'entreprendre une démarche avec moi. Es-tu d'accord? Lire tout un livre en une semaine? Vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Je n'ai jamais fait ça. Vous savez, je ne sais jamais comment je me sentirai d'une journée à l'autre. J'ai souvent des mauvaises journées. Je ne peux même plus travailler à cause de ma santé fragile. Bon, je vois, si c'est une condition, je vais me forcer. Mais je ne promets rien. Tu n'as rien à me promettre. C'est à toi que tu dois faire des promesses. Tu pourras ainsi vérifier à quel degré tu es décidé à améliorer ta vie. Certaines personnes réussissent à lire ce petit livre rose en une journée. Si tu le veux bien, tu pourras certainement le faire en une semaine. On se donne donc rendez-vous pour la semaine prochaine, d'accord? Rita entre dans mon bureau d'un pas beaucoup plus alerte que la semaine dernière. C'est bon signe. Bonjour, Lise. Je me sens prête à te tutoyer maintenant que j'ai lu ton livre. Quand je le lisais, J'avais l'impression que tu me parlais directement. Sais-tu combien de temps j'ai pris pour le lire? 3 jours. Je n'en revenais pas moi-même. J'ai même relu certains chapitres pour faire les exercices suggérés à la fin, mais je n'ai pas vraiment réussi. Je crois que j'aurai besoin d'aide pour les compléter. Par contre, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui, car suite à la lecture de ton livre, j'ai vraiment hâte de travailler avec toi. Tu as eu raison de me demander de le lire. Je comprends beaucoup mieux ton approche maintenant. J'ai surtout aimé la simplicité des solutions que tu proposes. Bravo, Rita. C'est un bon départ. Je suis prête à écouter ce que tu veux améliorer dans ta vie. Quelles sont toutes ces pertes dont Mario m'a parlé et qui te causent des problèmes? Tu n'as pas idée, Lise, combien je suis malchanceuse depuis plusieurs années. Je dois avouer que je n'ai pas eu une vie facile, mais ça semble empirer depuis que Mario m'a quittée. Quand ce n'est pas un problème de santé, ce sont les affaires qui ne marchent pas, sans compter mes relations. Pour tout dire, rien ne va à mon goût. Je n'ai qu'un fils et il trouve une multitude d'excuses pour ne pas me voir souvent. J'avais tellement hâte d'être grand-maman et je n'ai même pas la chance de voir mon petit-fils aussi souvent que je le souhaiterais. Je ne dis pas que c'est la faute de mon fils. C'est moi qui suis la plupart du temps trop fatiguée pour me déplacer. Quand Nicolas était bébé, ma bru m'a demandé quelquefois si je pouvais le garder et en règle générale, je refusais. Je trouvais différentes excuses, mais la vérité, c'est que je trouvais très exigeant de s'occuper d'un bébé. Je préfère les enfants plus grands, quand ils sont plus autonomes et que je n'ai pas à les surveiller de trop près. Je me sens gauche avec un petit garçon. Jeune mariée, je voulais avoir une fille, mais mon souhait ne s'est jamais réalisé. Ma sœur me dit souvent qu'elle a un Dieu juste pour elle, tant elle a de la chance. Mais c'est tout le contraire pour moi. Je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu pour avoir cette vie-là. C'est très injuste, si tu veux mon avis. Je suis désolée de devoir t'interrompre, Rita. Mais tu me parles de plein de choses, et il m'est impossible de t'aider si je ne sais pas dans quelle direction nous devons nous diriger. Tu sembles vivre des problèmes au niveau de ta santé, dans ta vie professionnelle, dans ta vie de couple et avec ton fils. Lequel veux-tu aborder en premier? Tu sais, très souvent les méthodes utilisées pour résoudre un problème sont utiles pour solutionner d'autres problèmes. Nous n'avons pas à essayer de tout régler en même temps. Je la sens hésiter, chercher dans sa tête en levant les yeux au plafond. Je te suggère de baisser les yeux et de les fermer. Ça t'aidera à sentir davantage. Bon, c'est bien. Maintenant, vérifie dans ton cœur ce qui te fait le plus mal. Lentement, reprends contact avec chaque problème ou chaque personne et sens à quel point chacun est douloureux pour toi. Ça y est. Le plus douloureux, c'est ma séparation avec Mario. Je ne l'ai pas encore accepté. Quand il m'a annoncé qu'il me quittait, j'ai cru mourir. Je ne l'ai vraiment pas vu venir. Comme il voyageait souvent pour son travail, je ne me suis jamais doutée qu'il me trompait. Par la suite, quand je l'ai su, j'ai commencé à prendre conscience de plein de petits indices que j'aurais dû voir. Je suppose que ça doit être comme ça pour beaucoup de femmes. Même si, lorsque j'avais mon commerce, une de mes employées faisait tout le contraire. Elle passait son temps à douter de son mari, elle le surveillait sans cesse, convaincue qu'il la trompait. Elle a même engagé un détective pour le faire suivre et a finalement réalisé qu'elle avait tout imaginé. Pourquoi nous, les femmes, ne pouvons-nous pas voir les choses telles qu'elles sont? Il me semble que les hommes sont plus réalistes. Est-ce vrai selon toi? Les hommes, comme les femmes, sont parfois réalistes, parfois non. Il est tout à fait normal et humain de ne pas vouloir voir la réalité quand nous souffrons. Il y a un autre livre que tu pourrais lire sur les blessures de l'âme qui t'aiderait à comprendre ce qui nous empêche d'être réalistes. Revenons au problème dont tu veux discuter aujourd'hui, celui de ta difficulté à accepter ta séparation de Mario. Qui as-tu accusé à ce moment-là, toi ou lui? Quelle question, c'est lui, voyons! Pourquoi me serais-je accusée alors que c'est lui qui m'a trompée? Tu serais surprise de savoir combien de personnes croient qu'elles sont responsables quand leur conjoint les laisse, autant chez les femmes que chez les hommes. Tu sauras plus tard pourquoi j'ai besoin d'avoir ce renseignement. Alors, dis-moi, de quoi as-tu accusé Mario ?
D'être un lâche, un menteur, un hypocrite. Imagine-toi que ça faisait des mois qu'il la fréquentait, et tout ce temps-là, il faisait semblant de rien.
Comment as-tu vécu cette situation ? Qu'as-tu ressenti lorsque c'est arrivé, à part croire que tu allais en mourir ?
Pour commencer, je n'ai pas voulu le croire. J'ai voulu savoir s'il était bien sûr de sa décision, si cette relation était vraiment sérieuse. C'est alors qu'il m'a avoué qu'elle était enceinte. Tout de suite, j'ai su qu'elle l'avait manipulé et je lui ai dit qu'il se faisait avoir. Il s'est alors mis en colère, m'a dit que ça ne me regardait pas et que s'il se faisait avoir, c'est lui qui vivrait avec ça. Et moi, je ne suis pas concernée, non ? Je me fais prendre mon mari par une profiteuse et je suis censée ne rien dire ? Lui ai-je dit. Puis je me suis mise à pleurer sans pouvoir m'arrêter. J'ai ajouté, tu aurais pu me préparer, être moins brutale. J'ai trouvé son attitude non seulement brutale, mais inacceptable et sans cœur. Il a essayé de m'expliquer qu'il n'était pas spécialiste de ce genre de situation et que ça ne servait à rien de faire une crise, qu'il en avait assez de mes emportements de toute façon.
Donc, tu l'as accusé d'être lâche, menteur, hypocrite, sans cœur et brutal dans sa façon de t'annoncer la nouvelle. Mais je ne sais toujours pas comment tu t'es sentie dans cette situation. Tu me racontes ce qui s'est passé et ce que tu as pensé, mais tu ne me parles pas de ce que tu as ressenti. Peux-tu me le dire ? Elle hésite, soupire plusieurs fois, fixe ses souliers et finit par me dire d'une voix enfantine.
Je me suis sentie désemparée. J'ai vécu une peur panique de me retrouver toute seule. C'était comme si le plancher s'était dérobé sous mes pieds et que j'allais tomber dans un précipice, sans personne pour me sauver, m'aider à en sortir. Je me suis sentie si seule, abandonnée. Tu sais quoi ? Je viens de réaliser ce que ma mère a dû vivre quand papa l'a quittée. J'avais 16 ans à l'époque, et je savais que mon père la trompait. Quand il est parti, j'ai dit à maman qu'il était temps qu'elle pense à elle et qu'elle cesse de se faire avoir par papa. Je n'en pouvais plus de l'avoir complètement abattue, comme si sa vie venait de se terminer. Je remarquais qu'elle vieillissait très vite. Après l'avoir exhortée à maintes reprises à se prendre en main, j'ai fini par ne plus m'occuper d'elle, car ça me faisait trop mal de l'avoir aussi désespérément accrochée à papa. Ma sœur, qui a 5 ans de plus que moi, était déjà partie avec son copain. Elle me disait qu'elle ne serait jamais comme maman et me suggérait d'arrêter de m'en faire autant et de vivre ma vie. Moi aussi, je croyais bien ne pas être comme maman. J'étais tellement contente d'avoir épousé un homme qui ne ressemblait pas à papa. Comment se fait-il que j'étais aussi aveugle ? J'ai fait exactement comme elle. Je n'ai toujours pas retrouvé ma joie de vivre depuis que Mario est parti.
Bravo, tu viens de faire un lien qui va beaucoup t'aider. Dis-moi, Rita, se peut-il que tu aies accusé ton père des mêmes choses dont tu as accusé Mario ? D'être lâche, menteur, hypocrite, sans cœur et brutal dans sa façon de parler à ta mère ?
Ma foi, c'est très juste. Je ne m'étais jamais arrêtée à ces termes, mais je sais que je lui en ai toujours voulu d'avoir fait souffrir maman. Oui, mon père était tout ça, lâche, menteur, hypocrite et très brutal. Il l'a été avec moi aussi.
Maintenant, nous savons que ce que tu as vécu avec Mario vient du fait que tu n'as pas encore fait la paix avec ton papa. Ce que tu as vécu avec ta maman est autre chose. Le comportement qu'elle a adopté s'appelle un comportement de victime. On le reconnaît du fait que les gens se plaignent, ne se trouvent pas chanceux, attirent un malheur après l'autre et n'arrivent pas à trouver de solution pour s'en sortir. Maintenant, est-ce que tu réalises que tu agis en victime toi aussi ?
Je suis bien obligée de me rendre à l'évidence, mais je n'aime pas ça du tout. Je critique même souvent les gens qui se lamentent sans cesse. Je me dis qu'ils se plaignent le ventre plein, que s'ils avaient tous mes problèmes, ils auraient alors raison de s'apitoyer sur leur sort.
Comment se fait-il que je n'ai jamais réalisé que je me plains? Selon moi, je ne fais que parler de la réalité et non me lamenter.
Ne sois pas aussi dur envers toi. Toutes les personnes qui adoptent un comportement de victime souffrent à cause de leurs blessures d'abandon. Tu as toi-même dit que ta vie a pris un tournant plus difficile depuis que Mario est parti. Ta blessure d'abandon a été stimulée par cette situation et, malheureusement, tu es resté dans cette souffrance depuis. Je ne veux pas m'attarder sur les blessures aujourd'hui, car je veux travailler davantage sur le vrai problème et sur ce que tu veux dans la vie. Tu te demandes pourquoi, auparavant, tu n'as jamais remarqué que tu étais comme ta mère. C'est notre ego qui ne veut pas que nous voyions ce que nous critiquons chez les autres. Mais notre Dieu intérieur, qui est notre grand ami, s'applique à nous laisser savoir ce que nous essayons de nier. La vie est merveilleuse. Elle s'occupe sans cesse d'attirer notre attention sur tout ce qui nous empêche d'être heureux. Sur le coup, ça fait mal de se rendre compte de ce que nous sommes réellement. Mais cette étape est nécessaire pour que nous devenions conscients de ce que nous ne voulons plus être et que nous nous dirigions enfin vers ce que nous voulons être. Donc, tu viens de découvrir que tu as la même attitude de victime que ta mère et que tu ne l'avais pas vue auparavant. Pour t'aider à découvrir ce que tu veux être au lieu de tenir un rôle de victime, je vais te poser d'autres questions. Le fait d'être séparé te crée quel nouveau problème que tu n'avais pas du temps de ton mariage avec Mario?
Je ne supporte pas d'être seule. Je ne m'y habituerai jamais.
David était avec moi au moment où nous nous sommes séparés, mais lui aussi m'a abandonnée. Il est parti de la maison aussitôt qu'il a commencé ses études universitaires. Il partageait un petit appartement avec ses copains, était si occupé avec ses études et un emploi de fin de semaine que je ne le voyais pas souvent. Son père a payé ses études, mais ne déboursait rien pour ses petites dépenses. Il s'est donc assumé en travaillant. J'en étais très fière et me disais qu'il ne deviendrait pas comme son père. Après ce que je viens de découvrir, j'espère qu'il ne reproduira pas ce que son père et son grand-père ont fait. Voilà une nouvelle inquiétude que je n'avais pas avant. Crois-tu qu'on puisse vivre une vie sans problème?
Ma sœur dit que oui. Elle est la seule que je connaisse qui ne se plaint jamais de rien.
C'est utopique de croire qu'il y a des gens qui n'ont aucun problème. Cependant, ce qui les différencie, c'est la façon dont ils réagissent aux difficultés qui se présentent tout au long d'une vie. Je ne peux pas parler pour ta sœur, car je ne la connais pas. Mais il y a de fortes chances qu'elle soit si concentrée à ne pas être comme sa mère, qu'elle nie les problèmes qui l'entourent. Les difficultés que nous attirons sont nécessaires pour nous aider à nous découvrir et à nous renforcer. Une personne peut vivre une épreuve dans la paix intérieure. Pour cela, elle doit observer tout ce qui se passe. Si elle nie le problème, elle le refoule, il ne disparaît pas pour autant. Au contraire, elle le nourrit à son insu en refusant de s'identifier au problème, puis, un beau jour, celui-ci explose. Cependant, il se peut très bien que ta sœur soit capable d'être observatrice. Qui sait? Juste avec quelques questions, je pourrais le savoir. Pour l'instant, parlons de toi et de ce que tu veux. Nous savons maintenant que ta plus grande difficulté est de te sentir seule. Que veux-tu alors?
C'est évident. Je veux ne plus être seule. Je veux rencontrer un homme en qui je peux avoir confiance. Après tout, je suis encore dans la fleur de l'âge. J'ai 48 ans. Il me semble qu'il est encore temps de refaire ma vie. Au début de ma séparation, j'allais danser avec une amie et j'ai rencontré quelques hommes. On m'en a aussi présenté à plusieurs reprises, mais aucune relation n'a duré. Je crois que j'avais trop peur de me faire échauder une autre fois. Parfois, c'est moi qui ne voulais pas continuer la relation. Parfois, c'était eux. Maintenant, je n'ai même plus envie de sortir pour tenter de rencontrer un nouveau compagnon. Je voudrais qu'on vienne me chercher. Tu vas me dire que je rêve en couleur, mais c'est ainsi. Je veux quelqu'un dans ma vie, mais je n'ai plus envie de faire des efforts. Est-ce que c'est ça, vieillir? Suis-je comme maman? Suis-je en train de vieillir rapidement comme elle? Ah non, il faut que je fasse quelque chose. Je ne veux pas finir ma vie comme ma mère qui est décédée il y a 2 ans et qui m'a toujours semblé malheureuse. Je dois t'interrompre, car tu ne réponds pas vraiment à ma question. Tu me dis ce que tu ne veux pas et non ce que tu veux véritablement. Ne t'en fais pas. Beaucoup de personnes font la même chose. Ce qu'elles veulent est basé sur ce qu'elles ne veulent pas, c'est-à-dire sur leur peur. C'est pour cette raison que ce que tu veux dépend de quelqu'un d'autre. Un vrai « je veux » doit dépendre seulement de toi. Veux-tu que je t'aide? Tu peux vouloir plus d'une chose dans cette situation. Tu peux vouloir être bien, même si tu es seul, ou vouloir apprendre comment faire davantage confiance aux hommes. Tu peux vouloir découvrir des moyens pour voir le bon côté des choses, plutôt qu'adopter une attitude de victime. Tu peux vouloir te trouver une occupation passionnante qui t'apporterait de la joie de vivre. Je viens de te proposer 4 choix différents, mais il peut y en avoir bien d'autres. Est-ce que cela t'aide à découvrir ce que tu veux? Rien ne peut changer dans ta vie tant que tu ne prends pas une décision, que tu ne dis pas avec fermeté « voilà ce que je veux ». Je ne suis pas habituée à voir les choses ainsi. Juste à t'écouter, je me sens déjà mieux. J'ai plus d'énergie. Je n'avais jamais réalisé que c'était ainsi qu'il fallait procéder. Au fond, c'est ce que je voulais faire avec maman, l'aider à trouver quelque chose qui la rendrait plus heureuse. J'imagine qu'elle aussi agissait comme moi. Nous étions si occupés à ne voir que ce que nous ne voulions pas, à refuser d'accepter ce qui nous était arrivé, que nous ne pouvions pas envisager les choses autrement. Ce qui me plaît le plus dans ce que tu as dit, c'est d'être bien même si je suis seule. Mais ça me semble impossible et surtout, j'ai peur que si j'y arrive, je vais demeurer seule le reste de mes jours. T'entends-tu? Dis-moi, si tu arrives à être bien seule, quelle différence cela fera si tu ne trouves pas de compagnon? Tu parles ainsi parce que, pour le moment, tu n'arrives pas à être vraiment bien, même si tu es seule. Te souviens-tu de ce que tu as lu dans le livre au sujet du lâcher-prise? Oui. Ce qui m'a frappé, c'est lorsque tu dis que le lâcher-prise nous aide à passer à autre chose et souvent à faire arriver ce que nous voulons. Veux-tu dire que, si je lâche prise sur le fait que je veux un nouveau compagnon, je vais en trouver un? Ça me semble utopique. C'est comme si je disais que ça ne me fait ni chaud ni froid d'avoir un compagnon ou non. J'ai toujours cru que pour parvenir à quelque chose, il fallait y penser sans cesse. Je te rappelle que lâcher prise ne signifie pas ne plus vouloir quelque chose. Ça signifie plutôt être bien même si on n'a pas le résultat désiré. C'est faire entièrement confiance à ton Dieu intérieur, qui sait exactement ce dont tu as besoin. Tu lui fais part de ton souhait, dans ton cas d'avoir un compagnon, et ensuite, le plus possible, tu vis ta vie dans la joie, en faisant confiance à l'univers, en étant convaincu que si c'est ce dont tu as besoin, ça se produira. Assure-toi de plus que tes actions sont motivées par ce que tu désires et non par la peur. Si tu lâches vraiment prise, la joie fera partie de ta vie, que ton désir se réalise ou non. Je te rappelle que nos désirs viennent de notre mémoire, de nos corps émotionnels et mentaux, tandis que nos besoins répondent à notre plan de vie. C'est ce dont notre âme a véritablement besoin de vivre et d'apprendre. Comment arrive-t-on à se lâcher prise? Le moyen le plus rapide et le plus efficace est l'acceptation. Dans ton cas, tu dois faire la paix avec tes parents, car ce problème que tu vis depuis ta séparation semble toucher des blessures vécues avec ton père et ta mère. Faire la paix avec eux? Maman est décédée et je n'ai aucune idée si papa est encore vivant ou non. Ma sœur et moi l'avons vu quelques fois après son départ, mais nous étions très mal à l'aise avec lui. La dernière fois que je l'ai rencontré, il m'a dit qu'il déménageait en Ontario, car il avait fait la connaissance d'une femme qui vivait là. Nous n'avons jamais eu d'autres nouvelles. J'avais 20 ans. Comment puis-je faire la paix avec eux ?
Tu peux le faire sous forme de relaxation. Tu prends le temps de bien détendre ton corps, tu peux même le faire étendu dans ton bain, et les yeux fermés, tu t'imagines en leur présence.
Il est préférable de faire cette démarche avec un de tes parents à la fois, car tu n'as pas vécu les mêmes choses avec chacun d'eux. Cette situation touche deux blessures différentes.
Je sors la feuille avec les 7 étapes de la réconciliation, que nous verrons ensemble plus tard, et je prends le temps de lui expliquer comment procéder. Il se peut que tu trouves difficile l'étape où tu dois te rappeler des situations où ton père a pu t'accuser des mêmes choses que toi. Tu te souviens m'avoir dit que tu l'as accusé d'être lâche, menteur, hypocrite, sans cœur et brutal dans sa façon de parler. Je te rappelle, comme tu l'as lu dans le livre, que ce que tu vis avec une autre personne est là pour te rappeler que tu t'accuses de la même chose, mais que tu ne veux pas le voir. Quand on accuse une autre personne, cette dernière nous accuse de la même chose et nous nous en accusons aussi. Prends le temps qu'il te faudra pour faire chacune des étapes. Je lui propose de revenir me voir dans 2 semaines pour vérifier ce qu'elle vit suite à cet exercice. Je suis satisfaite de notre rencontre, mais je ne suis pas sûre que je vais y parvenir. C'est tellement nouveau pour moi ce genre de démarche. Cependant, je suis bien décidée à le faire. Je m'aperçois que je veux vraiment que ça change. Tu sembles tellement certaine que ta méthode de réconciliation est efficace que ça me donne le courage de la mettre en pratique. Lors de la prochaine visite, pourrons-nous parler d'un autre sujet qui me tient très à cœur ? J'ai fait faillite il y a 7 ans et, depuis, j'ai toujours des problèmes financiers.
Oui, nous en parlerons.
Ce serait une très bonne idée de relire le chapitre où j'explique les comportements d'une personne qui agit en victime. Cela facilitera notre prochain entretien. De plus, si tu peux lire le livre sur les blessures, cela t'aidera à comprendre davantage les événements de ta vie.
D'accord. Mais je dois t'avouer que, quand tu dis que j'agis en victime, je l'accepte difficilement. Je pense plutôt avoir été victime des agissements des autres dans ma vie, et que ce n'est pas ma faute. Bon, il est temps que je parte. Je vais faire comme tu me le demandes. Je ferai la lecture que tu me proposes et nous en reparlerons. J'ai déjà pris beaucoup de ton temps aujourd'hui, et je t'en remercie.